et qui est par ailleurs donc chimiste et historienne de la chimie et de l'environnement, et qui va nous parler donc des cycles de l'eau dans différentes capitales européennes.
Européenne, on est d'accord. Voilà, merci. Merci André. Donc effectivement, de toutes les conférences de la journée, mais je vais encore vous présenter un autre point de vue, qui est la rivière vue de son, du point de vue de sa qualité. Et là, je vais vraiment rentrer dans la qualité. Et ce qui nous intéresse, c'est donc la qualité de l'hydrosystème et son évolution sur 150 ans, avec trois objets en interaction, qui sont la rivière et donc le système fluvial, la ville technique et ses infrastructures, donc tout ce que l'on peut faire comme tuyau pour amener cette eau, la faire ressortir, l'aménager, etc. Et puis les hommes et la société, ce qu'ils pensent de cette eau, comment ils vont la manager et comment ils vont faire en sorte qu'elle arrive de bonne qualité jusqu'à la ville. Alors, on a vraiment une spécificité. Donc, je suis, comme a dit André, chimiste et historienne. Et en fait, je travaille comme historienne dans un laboratoire d'hydrologue. Donc, il s'intéresse à la qualité de la Seine depuis très longtemps et dans un programme qui s'appelle le Pierre Seine. Et il s'y intéressait d'un point de vue contemporain et j'en apporte le point de vue longue durée. Et les spécificités de nos approches sont déjà qu'on utilise le point de vue de l'eau. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que contrairement à la conférence précédente, qui a complètement son intérêt, on a absolument besoin de travaux de ce genre-là, moi je regarde en fait non pas les débats qui ont lieu sur l'intérêt de traiter les eaux de Paris ou pas, mais je regarde les conséquences qu'ont qu'ont cette manière de gérer l'eau sur la qualité de la rivière. Donc, on ne peut pas voir si c'est intéressant d'utiliser un système unitaire ou pas pour Paris. Je vais regarder quel est l'impact qu'ont eu ces décisions sur la qualité de l'eau. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on va croiser plein d'approches différentes, que je vais en aborder quelques-unes au cours de cet exposé. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la qualité de l'eau? Ça va être la première partie de mon exposé. De quoi parle-t-on quand on évoque la qualité d'un cours d'eau? Alors, j'ai mis définition, mais en fait, ce n'est pas vraiment tellement une définition, ça varie avec le temps. Donc, on peut dire que ça a été une eau qui soit propre à la consommation et qui permettait de cuire les légumes dans de bonnes conditions. Voilà, on peut donner ça comme définition, mais cette définition va varier avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme définition, premièrement? Et deuxièmement, les définitions ou les perceptions de la qualité sont très variables selon les acteurs, ou surtout, plutôt qu'acteurs, j'aurais pu mettre les observateurs. C'est évident que des gestionnaires de l'eau qui doivent garantir une eau potable n'ont pas les mêmes préoccupations que des industriels qui veulent prélever de l'eau dans la rivière et qui veulent que les eaux simplement n'encrassent pas leurs machines, ou les promeneurs qui peuvent s'effrayer d'eau brune, alors qu'en fait, elles sont finalement, simplement, si on les fait décanter, on peut les boire, hein, l'eau de la Seine, par exemple. Ou au contraire, les pêcheurs qui, eux, se réjouiront de trouver ces eaux plutôt chargées de matière organique, parce que c'est ce qu'il faut pour que les poissons soient là et vivent encore. Donc, on a vraiment des définitions, des perceptions qui sont variables. Donc, que peut-on appeler la qualité de l'eau? Donc, je vais développer ça un peu dans la première partie, puis après, je vous dirai ce qu'on peut apprendre de la comparaison, de ce que nous avons appris, de la comparaison de quatre villes européennes. Alors, j'ai repris ce schéma à un de mes collègues, hein, donc qui est hydrogéologue. Hein, je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple. Bon, déjà, le nombre de critères, enfin, de descripteurs de la qualité a évolué de manière exponentielle. Donc, c'est une échelle log. Hein, je ne sais pas s'il y a un pointeur quelque part. Hein. Donc, c'est une échelle log ici. Alors, c'est une courbe. Elle n'a pas une réalité historique. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'ici, je sais pas, c'est 5, on va dire, ou 4. C'est une vue de l'esprit de mon collègue hydrogéologue, mais elle a quand même une certaine réalité. Bon, il y a quelques variables physiques qu'on peut regarder. Il y a surtout des variables chimiques, hein, dont une très importante dont je vais discuter un peu, c'est l'oxygène dissous dans la rivière. Et puis, petit à petit, on a commencé à s'intéresser à l'azote et puis aux ions majeurs. Bon, on a commencé à mesurer des pH précis à partir de 1910. Et puis, plus récemment, donc des molécules celles qui sont avec une étoile, sont des molécules qui sont ce qu'il a appelé des non-natural products, c'est-à-dire des produits de synthèse qu'on commence à retrouver dans la rivière, comme les pesticides, les polluants organiques persistants, etc. Et puis, en fait, de plus en plus, on a dérivé vers des indices biologiques, des variables biologiques, où on a compté des bactéries déjà, puis après on a fait des demandes d'oxygène chimique ou bien des demandes biologiques en oxygène, des nutriments, des indices biotiques, etc. Alors, ce qui montre dans ce schéma, alors pourquoi commencer en 1850 ? 1850, c'est pour, en tout cas enfin pour la France, mais enfin pour l'Europe, on va dire, hein, le début d'une méthode d'analyse de l'eau qui permettait pour la première fois de mettre un chiffre à côté d'une eau en lui disant si c'est une eau de bonne qualité ou pas. Ce chiffre, c'est là ce qu'on a appelé d'abord la crudité de l'eau, ce qu'on appelle maintenant la dureté de l'eau ou le degré hydrotimétrique. Donc première fois que l'on, je vais revenir dessus, que l'on met un chiffre à côté d'une eau et donc on va pouvoir faire des échelles de qualité de l'eau. Et puis voilà, donc il a tracé ces trois courbes en disant si on voulait vraiment respecter toutes les réglementations à l'heure actuelle, il faudrait faire des centaines d'analyses à chaque point d'eau. En fait, dans la plupart des cas, on se contente d'en faire une quarantaine. Et puis bon, on a encore de la chance dans les pays occidentaux de manière générale. On a effectivement un certain nombre d'analyses qui remontent au milieu du 19e siècle, mais souvent ces analyses n'existent pas. Elles ont commencé bien plus tard. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, alors du coup, pour... pardon, je vais revenir à ceci. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour décrire une qualité de l'eau ? Est-ce que je vais prendre pour chaque période en disant, en 1850, on regardait la qualité comme ça, et puis voilà ce que les gens disaient. Puis en 1900, voilà comment ils la regardaient, et voilà ce qu'ils en disaient. Bon, je peux vous dire tout de suite ce qu'ils en disent, c'est, ah là là, c'est terrible. Plus ça va, moins ça va, c'est-à-dire que l'eau qu'on nous apporte... Et peut-être à peu près bonne qualité, mais enfin on voit bien que tout ce qu'on jette tue la rivière, donc notamment tous les rejets urbains. Et voilà, on peut continuer comme ça indéfiniment. Donc c'était pas satisfaisant pour nous. Alors je voudrais déjà revenir sur ce premier point que je vous ai souligné, qui est 1850, en fait très précisément 1854 pour la France, Boutron et Boudet. Donc degré hydrotimétrique. Alors c'est une définition, je me suis amusée là à vous mettre les... Évidemment, elle varie suivant les pays, parce qu'on ne parle pas... Enfin, en France, on parle de grammes de savon par litre d'eau, mais on va parler d'onces, on va parler de gallons, on va parler de d'autres unités de mesure dans les autres pays. Donc bon, ça a été un peu compliqué. Et puis, donc la première mesure de degré hydrotimétrique correspondait à l'ajout d'une certaine quantité de savon par litre d'eau avant que l'on observait la formation de mousse. Donc, ce qui correspondait à peu près, plus il y a de sel dans de l'eau, plus il faut rajouter de savon pour que l'eau veuille bien mousser. Et voilà les burettes qui ont été conçues pour mesurer ce degré hydrotimétrique. Donc on peut déjà s'intéresser à la qualité de la mesure, parce qu'évidemment, suivant la qualité du savon, on peut avoir des erreurs. Mais enfin, ce genre de choses était relativement bien appréhendé par les chimistes, qui ont compris très vite qu'il fallait qu'ils aient un savon standardisé et qu'il fallait qu'ils travaillent correctement. Et on voit apparaître ces chiffres. Donc ici, donc une série de mesures dans les années 1854-55, où de l'eau distillée qui ne contient pas de sel à un degré hydrotimétrique de zéro, la neige puis Grenelle, qui est donc une nappe phréatique qui prend de l'eau dans une nappe phréatique profonde, sont très peu salinisées, elles ont donc des degrés hydrotimétriques très faibles. Quand on regarde la Seine, elle a un degré hydrotimétrique, je vais y arriver, moyen, comme celle du canal de l'Ourcq, on considère que c'est de l'eau correcte. Généralement, on considère que l'eau de la Seine est de bonne qualité, c'est ce que dit dans les textes, jusque dans les années 1850. Et puis, des eaux qui étaient pourtant extrêmement utilisées à Paris, qui étaient les eaux du Pré Saint-Gervais et de Belleville, donc des puits de ces endroits-là, qui sont des endroits où il y a du gypse, donc les eaux traversent du gypse, elles sont extrêmement chargées en sel, et on les considère mauvaises. Donc voilà, première échelle, première graduation d'une échelle quantitative de qualité des eaux. Sauf que, donc si je regardais avec les yeux de quelqu'un de 1850, je serais contente de pouvoir dire que j'ai des eaux de bonne qualité ou de mauvaise qualité, sauf que les eaux de Belleville, on les buvait, donc est-ce qu'on buvait des eaux mauvaises ? Et puis, petit à petit, on va quand même remettre en question ce premier critère. Mais enfin, bon, il nous sert bien quand même, ce premier critère, qui existe toujours. C'est la première mesure qu'on fait sur de l'eau. Quand on veut regarder de l'eau, c'est son degré hydrotimétrique. Voilà, donc bon, on commence à se rendre compte quand même que c'est non pertinent comme critère de qualité. Et voilà, ce canal de l'Ourcq dont on a déjà eu l'occasion de parler, en 1873, donc on considérait comme bon ou moyen d'après son degré hydrotimétrique. C'est en fait une eau très corrompue qui se présente comme un liquide stagnant, alternativement jaunâtre, verdâtre et noirâtre, et qui ressemble plutôt à un ruisseau de purin de ferme qu'à l'eau d'un canal. Hein. C'est normal puisque cette eau était destinée à la fois à alimenter Paris en eau, mais également servait de trafic fluvial. Hein. Donc, et juste à côté, il y a Bondy, par là peut-être. Pardon ? Oui, et porter les vidanges. Voilà, donc il y avait effectivement de quoi la rendre de mauvaise qualité. Donc on se rend compte que ce critère n'est pas bon. Alors donc du coup, voilà un autre exemple de problème qui existe quand on s'arrête sur les discours sur la qualité, au discours sur la qualité. Là, je vous prends un exemple beaucoup plus contemporain, des années 1990. Voilà un jeu de données de 40 stations de mesure dans le bassin Artois-Picardie. Qui était analysé, donc à 40 stations de mesure, et puis l'agence de l'eau Artois-Picardie avait sa propre échelle de qualité de l'eau, et elle considérait qu'il y en avait 30 qui étaient de bonne qualité, et puis quelques-unes qui étaient de qualité médiocre, donc évidemment celle rouge étant moins bonne que jaune. Et bon, toutes les agences de l'eau avaient des échelles d'eau, avaient des échelles de qualité différentes, donc il y a eu une volonté d'homogénéiser ces échelles d'eau. Donc il y a eu Seco, ça c'est la version 1, en fait après il y a une version 2 qui a suivi. Donc qui était un outil de gestion pour homogénéiser les échelles pour les gestionnaires de l'eau. Et là on se rend compte que ces mêmes stations, c'est-à-dire le même jeu de données, hein, on n'a rien changé dans les données, ce sont exactement les mêmes, avec ces mêmes données mais traitées selon d'autres critères de qualité, et bien on se rend compte que là cette fois-ci, il y en a des verts, il n'y en a plus beaucoup, des bleus non plus. Et enfin, il y a un peu plus de catégories, et puis surtout, il y en a plus de 18, enfin, il y en a 18 là qui sont considérés comme étant de mauvaise qualité. Alors, le Pierre Hensen a mis son nez un peu dans cette affaire, et lui, il a carrément rajouté une classe noire. Hein. Donc, il a dit que voilà, sur ces 18 qui sont de mauvaise qualité, en fait, il y en a 11 qui sont vraiment de très très mauvaise qualité, donc il faut absolument que vous alliez voir ce qui se passe là. Donc, sur un même jeu, pour un même jeu d'analyse, l'appréciation qui peut être communiquée donc, au public, au gestionnaire, au décideur, au ministère, peut être extrêmement variable, alors qu'il s'agit des mêmes données. Alors, autant vous dire qu'on peut vraiment dire tout sur ces problèmes de qualité. Alors, donc, nous, pour résoudre le problème, on a fait un choix que l'on assume, qui est de considérer que la période 1850-2010 appartient à un même référentiel technique, et qu'on peut décrire la qualité sur cet ensemble d'années avec notre propre regard contemporain et notre propre échelle. Voilà. Donc on va se simplifier la vie, on prend notre regard, on reprend les données qui existaient avant, et voilà par exemple un jeu de données qui existe depuis 1874, qui est la concentration en oxygène dissous dans la rivière. Je vais vous expliquer un petit peu ce schéma. On a décidé de relire ces données anciennes. On s'est permis de le faire parce que bon, on a quand même regardé quelques-unes de ces mesures et sur des données assez standards, on s'est rendu compte qu'elles étaient déjà reproductibles dans le temps, c'est-à-dire que l'opérateur les reproduit plusieurs fois et donne des chiffres qui sont cohérents. Et on a une bonne couverture à la fois spatiale et temporelle. Donc on reprend ces données anciennes, on les réécrit à notre manière. Donc ces données, on ne les a pas réinventées. Hein. C'est Gérardin, le premier à avoir descendu la rivière de la Seine sur un petit bateau, en amont de l'amont de Paris jusqu'à l'aval de Paris. Ici, ce sont des kilomètres, hein, avec le point zéro qui est au point kilométrique zéro qui est au pont de la Tournelle à Paris. Et il a mesuré de l'oxygène dans la rivière. Lui, il interprète la perte d'oxygène comme étant le témoin de la présence de matière organique. Nous, on l'interprète un petit peu différemment, mais enfin, en grosso modo, ça revient quand même à ça. Donc, on a, nous, maintenant, un critère qui est que pour avoir une eau de bonne qualité, il faut que cette teneur en oxygène dissous soit supérieure à 5. Gérardin ne l'avait pas, mais moi, je me permets de le mettre sur ce schéma, et on se rend compte donc que l'eau est à peu près de bonne qualité avant Paris, et qu'à Paris c'est absolument catastrophique, surtout quand on arrive à Asnières, donc qui est l'endroit où sont rejetés les égouts de Paris, et que donc il faut un certain temps pour que la rivière se régénère. C'est une courbe classique dite en sac. Donc ça, c'est aussi une expression de 1930, mais Gérardin l'avait parfaitement vu qu'il y avait cette diminution puis cette réaugmentation. L'augmentation la plus franche étant ici, à partir du moment où on atteint l'Oise. Donc le pouvoir oxygénateur de l'Oise est évidemment tout à fait... Donc à Conflans-Sainte-Honorine, l'Oise se jette dans la Seine. Et donc la Seine redevient de qualité acceptable. Voilà, donc on se permet de relire ces données anciennes et de porter un jugement sur la qualité de la rivière. Donc ici, on dit que la rivière est de mauvaise qualité sur, donc on voit là, 74 sur à peu près 70 km, et qu'en 1897, le profil linéaire sur lequel la rivière est de mauvaise qualité a augmenté. Donc on interprète ça comme une dégradation de l'état de la rivière. Alors on se permet également de reconstituer des qualités passées grâce à des archives que les historiens n'ont pas l'habitude d'utiliser, comme ici les archives sédimentaires. On a aussi utilisé d'autres types de données qui n'étaient pas à l'origine destinées à décrire la qualité de l'eau. Par exemple, on a utilisé des données de pêche, donc de présence ou non de certaines espèces de poissons, pour reconstituer des états de rivière. Alors, comment ça marche, des archives sédimentaires? Donc ici, c'est un site qui est en aval de Paris, dans la boucle des Andelys. Donc la Seine coule normalement ici, et puis de temps en temps, il y a une inondation, et elle va inonder cette partie ici. En fait, si je regardais par au-dessus, cette partie-là est une île, est une ancienne île qui a été rattachée à la berge à la fin du 19e siècle. Et la première fois qu'elle a été vraiment, que cet endroit a vraiment été mis en eau par la carotte sédimentaire qu'on a établie, c'est 1910. Enfin, à quelques années près dans la carotte, on ne peut pas garantir que c'est 1910, mais enfin, quand on dit que c'est entre 1908 et 1913, avec l'erreur que l'on peut faire, et qu'on sait qu'il y a eu la crue de 1910, on peut bien imaginer que la crue de 1910 a d'abord évidemment inondé cette partie-là, qu'elle a contribué à un tassement du terrain, et ce qui fait que ce terrain est maintenant régulièrement inondé, pas forcément tous les ans, mais enfin suffisamment régulièrement pour que l'on puisse maintenant donc arriver, prendre une carotte, donc avec cet engin, le tailler en un petit peu comme les archives glaciaires, hein, donc le tailler en tranches, et puis faire des analyses dessus. Alors ces analyses, elles sont... Pardon ? 48. Alors la datation, elle est faite par le CEA, donc au césium 137. Alors c'est très simple, en fait, une carotte, si elle est bonne, hein, on voit donc pas grand-chose au début, et ensuite il y a une forme caractéristique, une espèce de patate caractéristique qui correspond aux essais thermonucléaires des années 1950-1960, et puis ensuite il y a un pic très fin qui est 87 Tchernobyl. Donc quand on a cette forme-là, on sait que la carotte correspond, qu'elle n'a pas été perturbée, enfin que les sédiments n'ont pas été perturbés, et que l'on peut faire donc qu'on peut remonter dans le temps. Alors voilà par exemple le type d'information que l'on a. Moi je me suis beaucoup intéressée au plomb à un moment, donc je vous ai montré cette courbe du plomb. Ici je parle de facteurs d'enrichissement en plomb, même s'il n'y avait aucune activité humaine dans le bassin de la Seine, il y aurait quand même du plomb dans la Seine, puisqu'il y a l'érosion simplement des terres qui contiennent des fifrelins de plomb, enfin, ou de tous les éléments métalliques, enfin, de tous les éléments. Et donc, on parle d'un facteur d'enrichissement, c'est-à-dire que s'il n'y avait rien, s'il n'y avait pas d'activité humaine, on serait à 1, et puis là, on est arrivé à des facteurs d'enrichissement de l'ordre de 20-25, qui montrent donc la quantité de plomb, enfin, qui sont représentatifs de la quantité de plomb qui pouvait être rejeté dans la Seine par les activités humaines, de la ville de Paris, qui utilisait plein de canalisations au plomb pour l'alimentation en eau des maisons. Hein, c'est des canalisations de type privé. Hein, on était en fonte pour les canalisations publiques, mais en plomb pour les canalisations privées. Et alors, je voudrais souligner quelques points. Bon, déjà, ici, voilà, donc il y a eu, à partir des années 90-95, il y a commencé à y avoir, enfin un petit peu par là, mais c'est surtout par là, il y a commencé à y avoir des directives françaises d'abord pour dire que quand on était une usine, il fallait qu'on rejette moins de tant de grammes de métaux, de plomb ici par litre d'eau. Et puis, je voudrais aussi souligner cette courbe-là sur les analyses, c'est-à-dire qu'on a commencé à regarder les métaux dans la Seine, ou dans les autres rivières d'ailleurs européennes, qu'à partir des années... Alors on a commencé dans les années 90, mais on a commencé à faire un suivi régulier à partir des années 95, même au-delà. Donc ce qui veut dire que ce qu'on a mesuré, ce qu'on a regardé, c'est juste ça. Hein. Donc les analyses qui existent sur la Seine, c'est ça. Alors ça, c'était absolument, totalement ignoré. Personne n'avait même idée que la Seine était contaminée à ce point-là dans l'ensemble des métaux. Là, je vous ai montré le plomb, enfin, c'est la même chose pour le zinc, le cadmium, le cuivre, tout ce que vous voulez comme élément. On est en train de faire ce même genre de travail sur la Loire et on a des résultats aussi assez intéressants. Après, on peut s'amuser. Je suis très bavarde, je vais arrêter là. Je voulais juste pointer aussi la directive cadre européenne de 2000 qui obligera les États membres à avoir des rivières dans un bon état écologique en 2015, donc, ce qui explique que l'Agence de l'eau financent beaucoup d'études sur ces qualités, enfin les agences de l'eau financent beaucoup d'études sur les qualités de l'eau, et même des historiens, pour pouvoir travailler, comprendre quelles sont les évolutions, les trajectoires de qualité, parce que bah, ils aimeraient bien savoir où on va, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout conscience de ça, donc ils sont bien contents de l'avoir appris, et en espérant que bah, ça va continuer à diminuer après pour la suite. Alors, on peut aussi reconstituer des états passés par modélisation. Ça a l'avantage de... Donc, on s'appuie sur des données qui peuvent être un peu éparses à la fois dans l'espace et dans le temps, et on peut donc reconstituer comme ça des états sur l'ensemble des... sur l'ensemble de la rivière et à toutes les échelles de temps. Alors, voilà. Donc, on a une meilleure... grâce à ces reconstitutions d'états passés, au lieu d'avoir très peu d'éléments pour les années... Pardon, 1850, et ben on en a maintenant beaucoup plus. Et donc, on se permet de décrire donc des évolutions de qualité. On peut décrire des trajectoires d'évolution d'état de la rivière. Alors, on veut tout de suite, évidemment, aller plus loin. C'est-à-dire, on peut bien dire les rivières étaient comme ceci, comme cela. Mais en fait, les rivières qu'on a étudiées sont des rivières qui sont très anthropisées, c'est-à-dire où l'action de l'homme est directe ou indirecte est omniprésente. Hein, d'où les questions de la deuxième partie de cet exposé. Donc, qui se préoccupait de la qualité de la rivière? Que disaient les institutions en charge de la mesure de la qualité? Et qu'a-t-on... Enfin, on ne s'est pas basé uniquement sur le cas de Paris. En fait, le fait d'avoir élargi notre panel et de s'être intéressé à d'autres villes européennes nous a réservé quelques surprises hein, que je vais essayer de partager avec vous. Alors, voilà les quatre villes. Berlin sur la Spree, qui est une petite rivière, un peu plus petite que la Seine. Ben voilà, Berlin très industrialisé. Berlin, c'est-à-dire, on a les quatre villes qu'on a étudiées sont Berlin, Paris, Bruxelles et Milan, que l'on considère comme quatre capitales européennes, même si Milan n'est pas une capitale au sens strict du terme. Mais bon, elles ont toutes les quatre eu une très grande croissance. De leur population, elles ont subi une industrialisation très forte. Je parle pour le 19e et 20e siècle. Hein, il y en avait évidemment avant, mais moi, je ne regarde que ça, que le 19e et 20e. Donc, une ville qui, comme Paris, s'est désindustrialisée. Il reste encore quelques vestiges de cette industrie pour Berlin et des activités, pas mal d'activités en bord de la rivière. Paris, il y a une particularité, c'est une photo contemporaine, c'est la banlieue. Alors, je vous ai montré la banlieue parce qu'en en fait, on a regardé non pas Paris intramuros, mais on a regardé l'agglomération parisienne dans son ensemble. Donc, on a pris non pas les villes, le cœur des villes, mais on a pris l'ensemble des agglomérations. Et donc, avec une particularité qui est flagrante par rapport à Berlin, c'est qu'on n'est jamais en contact avec la rivière. Il y a toujours une route entre la ville et la rivière. Alors là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent le nom de la rivière qui coule à Bruxelles. Je pense que vous connaissez. Oui, mais toi, c'est pas juste. Hein, tu connais la réponse. Donc, il y a le canal de Charleroi, ça, c'est une chose. Et puis, il y a une rivière qui s'appelle la Seine. Alors, c'est S-E-2-N-E, non pas la Seine, S-E-I-N-E. Donc, nous, on a tendance à l'appeler à la flamande la Seine, hein, histoire de parler de la Seine à Bruxelles et de la Seine à Paris. Mais bon, parce qu'on a un petit peu de mal, hein, sinon, à se faire comprendre quand on parle de la Seine. Alors, cette rivière, vous ne la connaissez pas parce qu'elle est complètement couverte. Elle a été en fait transformée en égout. Et c'est, voilà, on va voir pourquoi et comment, et etc. Pardon ? Oui. Et là, dernier exemple, Milan. Milan avec ses canaux, hein, dont on a déjà parlé ce matin, et qui sont maintenant, eux aussi, complètement couverts, hein, et qui sont en fait transformés. Enfin, les rivières souterraines, et notamment le Lambro méridional, et qu'on a vu tout à l'heure, dans un transparent de ce matin que je vais vous montrer cet après-midi, a été transformé lui aussi en égout. Donc, quatre villes, je vous ai dit que, donc, évolution de la population, donc forte croissance de la population, des villes également très, très marquées par l'industrialisation. Donc, ici, j'ai dû l'user à force d'appuyer dessus. Non, la Spandau, c'est l'intersection entre la Spree qui arrive de là. Et la Havel qui arrive ici, donc la Spree se jette dans la Havel. Donc voilà une photo de 1931 et puis la situation de nos jours. Donc des rivières qui ont évidemment un peu changé d'aspect, mais enfin qui ont été très marquées par l'industrialisation. Je peux dire que voilà, à Berlin, il y a une rivière qui a exactement le même statut que la Bièvre à Paris, qui s'appelle la Panke et qui était extrêmement industrialisée, qui se jetait dans Berlin et on l'a déviée de la même manière que la Bièvre pour la rejeter en aval de Berlin, parce que ça suffisait comme ça, et on l'a couverte, voilà, comme la Bièvre d'ailleurs. Alors, ces quatre villes, elles sont capitales, elles ont des pressions anthropiques sur leurs rivières qui sont assez fortes. Et des quatre rivières, alors je ne pourrais pas, par exemple, comparer ces quatre villes à Lyon, qui a le Rhône, qui est beaucoup plus puissant. Je ne pourrais pas non plus les comparer à Londres, Londres où la Tamise est soumise au flux de la marée, donc qui a un régime d'eau complètement différent. Donc on a pris quatre grandes villes qui étaient sur quatre toutes petites, enfin trop petites rivières pour supporter le poids de ces grosses villes. Alors, ces quatre villes, eh ben, elles étaient capitales, donc elles ont un savoir scientifique commun. Alors là, les preuves sont multiples. Hein. Elles n'arrêtent pas de traduire tous les textes importants qui paraissent dans un pays, sont traduits immédiatement dans les autres pays, en Allemagne, à Milan. Les laboratoires qui vont se monter à Paris ont été visités en Allemagne par un chimiste français qui s'appelle Wurtz, et qui va donc se déplacer en Allemagne, à Berlin, qui va voir le laboratoire de l'Office national de santé berlinois, qui veut absolument monter le même laboratoire à Paris. Donc les techniques, on ne peut pas garantir que les techniques soient exactement les mêmes, parce qu'il y a un savoir-faire de la personne qui fait les mesures, mais les savoirs sont quand même les mêmes. Alors il y a une chose qui est assez intéressante à regarder dans ceux qui vont regarder la qualité de l'eau, c'est que dans toutes les villes, il va y avoir un basculement entre soit une gestion par l'État, soit une gestion par la ville. Et généralement, ce basculement provoque une augmentation du nombre d'analyses qui sont faites. On le voit, alors sur Milan, ça va être l'inverse de la situation parisienne. Le laboratoire municipal va être très, très puissant pour les analyses de l'eau. Le laboratoire municipal de Paris fait aussi des analyses de l'eau, mais de manière beaucoup plus ponctuelle. Et là, je parle ici de l'observatoire de Montsouris, qui était sous gestion étatique et qui va passer sous la gestion de la ville de Paris, et on va voir donc le nombre de types d'analyses qui va augmenter. Et vous voyez qu'on analyse absolument toutes les sortes d'eau, puisque il y a l'eau de pluie, les prises d'eau dans la rivière, les égouts. Est-ce que c'est dans les égouts que je vais le voir ? Dans les égouts, par exemple, on va aussi... on va dire que c'était dans les urban rivers. Ils ont analysé la Bièvre. Hein. Donc la qualité de l'eau de la Bièvre était pire que... Enfin, les analyses de l'eau de la Bièvre étaient pires que les eaux d'égout de Paris. Donc c'était pour montrer que c'était vraiment pas... Alors le jugement n'est pas porté à leur époque. Hein, et ils disent simplement... Ils donnent les analyses. Hein, mais nous permettons, avec notre propre regard et notre propre référentiel, de juger que ces eaux étaient vraiment extrêmement polluées. Alors, de manière générale, ces analyses étaient réalisées par plusieurs institutions, donc soit à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale. Alors, on a ces villes qui sont du même type, qui disposent du même savoir, vont pourtant avoir des cycles de l'eau qui divergent grandement. Alors, comme je parle de cycle de l'eau, je voulais juste vous rappeler ce que c'était que le cycle de l'eau. Alors, c'est une image absolument affreuse, contemporaine, qui montre ce que le NEMA veut dire du cycle de l'eau. Évidemment, ça n'a pas toujours été ce cycle de l'eau-là. Donc une rivière, des prélèvements. Alors ce que je peux dire, c'est que les prélèvements, généralement, ils allaient directement à la ville ou ils allaient directement à l'industrie. Et d'ailleurs, ce circuit court de l'eau qui va directement à l'industrie et puis qui repart directement dans la rivière existe toujours. Bon là, c'est vertueux, donc il y a traitement de l'eau et puis il y a stockage de l'eau avant la distribution partout. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. Et puis là, les rejets, les rejets ici ils passent par une station d'épuration, mais en fait, ils sont plutôt aussi beaucoup comme ça, même si l'usine a sa propre station d'épuration, mais c'est pas la station collectif qui est représenté ici. C'est ça qu'on appelle le petit cycle de l'eau par rapport au grand cycle de l'eau qui est l'eau dans l'atmosphère, etc. Et donc, il y a un cycle complètement artificiel. Hein, et c'est juste pour vous rappeler la définition de ce que c'est un cycle de l'eau. Donc, ces quatre villes qu'on avait cru à peu près semblables, en fait, elles sont complètement différentes. Hein. Donc, c'est assez schématique. Hein, donc, c'est la situation actuelle. Donc, comme c'est très schématique, je ne garantis pas que tout est exact. Enfin, il peut y avoir des nuances que je n'ai pas représentées sur ce schéma. Alors, déjà, donc il y a la ville et puis son agglomération. Et puis, ici, les prises d'eau. Alors, vous voyez déjà deux situations qui ont l'air assez différentes. Donc, des prises d'eau pour alimenter la ville qui sont... Alors, il y en a qui sont de la rivière. Donc, ça, c'est le trait qui symbolise la rivière. Qui sont de la rivière vers la ville. Il y a des prises d'eau dans la Seine, en amont de Paris, dans la Marne, en amont de Paris. Mais il y a surtout, ce qu'on a déjà pu évoquer dans les exposés précédents, des sources qui ont été captées au profit de la ville de Paris, alors avec des conflits. Mais bon, pour régler un certain nombre de ces conflits, Paris a carrément acheté les terrains de ces sources pour pouvoir capter les eaux tranquillement et qu'on ne l'embête plus. Alors, il y a une autre ville qui a réussi à faire ça, c'est Bruxelles. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que Bruxelles, ce n'est pas la ville, au départ, qui a pris les eaux donc de Wallonie. Vous m'arrêtez, je ne sais pas du tout.
Je surveille.
D'accord. Bruxelles avait pris des eaux dans la forêt de Soignes, qui est juste à côté de Bruxelles, au sud-est de Bruxelles. Et les banlieusards de Bruxelles ont voulu prendre les mêmes eaux. Et bon, Bruxelles lui a dit non, vous débrouillez. Et ils sont allés chercher de l'eau en Wallonie, donc très loin. Donc ils ont réussi, eux, à aller prendre des eaux assez loin. Milan a essayé de faire pareil, il n'a pas pu. Ils ont voulu prendre des eaux dans le Piémont. Et les villes du Piémont leur ont dit d'aller se débrouiller avec les eaux qu'elles avaient et qu'il n'était pas question qu'elles en prennent leurs eaux. Donc Milan a été obligé, à la fin du XIXe siècle, de construire ce qu'elle a appelé un aqueduc, mais qui est en fait simplement un système de prélèvement de ces nappes hein, par machine élévatoire, donc, que nous a présenté Serge Benoît tout à l'heure. Hein. Et donc c'est un prélèvement local. Hein. Ils ont voulu aller les prendre loin, hein, mais ils n'ont pas pu, politiquement, ils n'ont pas eu assez de poids pour le faire. Et Berlin, c'est la ville vertueuse qui prélève ses eaux quasiment sur place. Et qui a une autre particularité, c'est qu'elle les rejette également sur place et qu'elle les traite absolument partout autour de Berlin. Et Berlin, c'est un cycle très très court. Elle ne s'autorise pas à prendre des eaux à l'extérieur de son territoire et à les rejeter à l'extérieur de son territoire. C'est même écrit dans les textes de loi de la ville. Alors que nous, on ne se gêne pas à Paris pour rejeter tout en aval. Et il a fallu que très récemment qu'on construise Valenton pour soulager un petit peu cet HR monstrueux qui est en aval de Paris et qui reçoit toutes les eaux usées de cette immense agglomération. Alors j'ai quand même mis des stations d'épuration sur Bruxelles et Milan, mais il faut savoir que les stations d'épuration de Berlin, donc les points rouges, sont apparues dans les années 1920. HR a commencé à se construire vraiment dans les années 1940 à Paris. Bruxelles, c'est 2000 pour celle-ci, 2007 pour celle-là. Et Milan, 2003, pour les trois stations qui sont donc en aval de la ville, et encore parce que la Grèce a porté plainte contre Milan, parce que Milan, il rejette ses eaux dans l'Ambro méridional, qui se jette dans le Pô, qui se jette dans l'Adriatique, et qui donc pourrait polluer les îles merveilleuses grecques dans lesquelles nous allons passer nos vacances. Donc plainte des Grecs devant la Commission européenne, qui a obligé Milan à construire ses stations d'épuration en 2003. La particularité de ces deux villes, c'est qu'elles avaient caché leurs rivières et qu'elles les ont donc oubliées. Je simplifie grandement le sujet. Mais alors, je ne sais pas du tout le temps qui me reste. 5 minutes ?
Oui,
5 bonnes minutes, d'accord. Donc, juste pour montrer quelques situations, pour rentrer un peu plus dans des détails. Donc, un des moyens de traiter les eaux, donc à la suite du merveilleux texte de Victor Hugo qui dit « Mais comment on rejette des millions d'or dans la Seine tous les ans ?» Et ce sont ces eaux, cet or qu'on rejette dans la Seine, ce sont en fait les excrétats de la ville de Paris. On a commencé à traiter ces eaux par épandage dans ce qu'on appelait des champs d'épandage. Alors nous, on a toujours, Paris a toujours été cherché vers l'aval. Donc la région de Gennevilliers d'abord, ensuite la région d'Achères, où s'est finalement installée la station d'épuration. Alors la situation à Berlin, alors je vais essayer de l'agrandir, parce que je crois que voilà, ça sera un peu plus... parce que vous ne connaissez pas forcément bien Berlin. Alors ici, c'est l'amont, avec le Müggelsee, où il y a des prélèvements d'eau, la Friedrichshafen, où il y a le prélèvement d'eau pour un des principaux pour la ville de Berlin. Alors ici, il y a une particularité de Berlin, c'est Charlottenburg, c'est notre Versailles, hein, sauf que c'est beaucoup plus près de Berlin que Versailles. Hein, et la deuxième différence, c'est que Charlottenburg est sur la Spree, alors que Versailles est plus loin, même si Versailles a beaucoup râlé contre la pollution de la Seine et a cherché à développer ses propres approvisionnements en eau, parce que la Seine était vraiment polluée par Paris. Mais là, à cause de Charlottenburg, en fait, Berlin n'a pas rejeté ses déchets en aval. Elle a été cherchée plus loin, au nord, au sud, un peu partout, en fait, voilà. Donc déjà, une première explication, un premier point important, c'est la présence de Charlottenburg ici, qui a eu une grosse influence sur, finalement, ce qu'a réussi à faire Berlin de ses eaux. Alors là, c'est... ces numéros, ce ne sont pas les quartiers de Berlin, c'est le plan de système des égouts qui a été monté par Olbrecht en 1873 et qui est un réseau unitaire, un réseau séparatif, j'ai dit exactement le contraire de ce que je voulais dire, alors que Paris est un réseau unitaire. Alors, les différences entre Paris et Berlin, c'est que Paris a toujours couru après les traitements des eaux. Ça, c'est voilà les eaux rejetées, les eaux usées rejetées de Paris. Et puis voilà les capacités de traitement de ces eaux. Donc à part maintenant, finalement, on a toujours été en dessous. Donc en fait, on a toujours rejeté dans la rivière la différence entre la courbe de ce qui était la capacité de traitement. Et encore, ça a une capacité de traitement en théorique. Donc on peut imaginer que la courbe était en dessous. Berlin, le transparent n'est pas terriblement beau, mais donc des stations, alors Wasserwerk, c'est les prélèvements d'eau, donc en bleu, et les stations d'épuration un petit peu partout. Alors même si elles sont à l'extérieur du territoire de Berlin, en fait, vous voyez que les eaux ici, donc à part cette flèche, les eaux sont rejetées, donc elles sont traitées, et elles sont implantées aux endroits où il y avait les champs d'épandage, parce que très rapidement, contrairement à la France, ils se sont rendus compte que les champs d'épandage ne remplissaient pas totalement leur rôle, donc il valait mieux traiter les eaux avant de les épandre dans les champs. Et donc il y a eu des stations d'épuration qui sont apparues un peu partout, aux endroits où il y avait ces champs d'épandage. Et puis, rejet des eaux dans les nappes phréatiques pour pouvoir avoir un cercle vertueux donc, et pouvoir continuer à avoir suffisamment d'eau sur son territoire. Bruxelles, voilà, je vous l'ai dit. Donc, je vous ai quand même fait une représentation de la Seine en 1837, donc qui est un espèce d'une ligne droite rectiligne là, comme ça, et qui est complètement couverte. Donc ça, c'est le centre de Bruxelles pour ceux qui connaissent. Tout ça, tous ces réseaux-là n'existent plus. Et puis donc, je vous ai rappelé un peu donc ce bassin versant de la Seine et puis les steppes telles qu'elles ont été construites en 2000 et 2007. Alors le fait de les construire aussi tard, ça a évidemment eu une influence sur la qualité de l'eau. Donc sur l'oxygène dissous, vous avez compris que quand c'était en dessous de 5, c'était de l'eau de mauvaise qualité. Donc en amont de Bruxelles, c'est déjà pas terrible. On est plutôt à 6 qu'à 10. Je vous ai dit une autre qualité normale, c'est entre 8 et 9, là, 8 et 10. Donc bon, c'est pas terrible, enfin on s'en remet encore. Par contre, donc là, avant 2000, là, on commence en 1990, on pourrait remonter avant, mais enfin, d'abord, on n'avait pas les mesures. Et puis, surtout, comme il n'y a pas de station d'épuration, finalement, ça ne change rien. On aurait toujours des chiffres catastrophiques ici. Et donc, on était dans une rivière morte, qui n'avait aucune possibilité. Enfin, c'est un égout, quand c'est de l'eau comme ça. Et ça a commencé à s'améliorer, donc en aval de Bruxelles, ça, à partir du moment où la deuxième station d'épuration s'est mise en place. Donc, comme quoi, ça a un effet d'avoir des stations d'épuration. Milan, j'ai repris le transparent de mon collègue de ce matin qui a eu la gentillesse de me le prêter. Oui, parce que je n'avais pas. Donc, c'était, voilà. Donc vous voyez bien la situation de Milan avec tous ces canaux. Et puis voilà le Lambro méridional qui passe là en fait et qui passe jusque dans la ville et qui sert d'égout en fait pour la ville de Milan. Et alors eux, ils ont prévu dans leur nappe. Alors ils ont eu un gros souci, c'est que Berlin a eu le même problème. Paris finalement a eu un peu le même problème, mais elle en a beaucoup moins parlé. Alors Milan, ils ont une particularité, c'est qu'ils consomment 3 fois plus d'eau, que Bruxelles, Paris et oui, mais l'eau coûte 3 fois moins cher. Donc c'est 400 litres d'eau par jour et par personne, contre 150 en moyenne pour les 3 autres villes. Donc ils ont la nappe a complètement, a été vraiment devenue très basse. Donc à ce moment-là, ils ont commencé à construire des tas de garages sous la ville, des tas d'endroits souterrains parce que c'était bien pratique, c'était tout asséché. Puis maintenant l'eau remonte, alors ils ont quelques soucis. Et ça a une influence assez spectaculaire, on va dire. J'ai montré cette carte parce qu'elle est, je trouve qu'elle est très belle. Ça, ce sont des polluants, donc divers et variés, je ne vais pas les détailler. Mais on voit bien que cet effet d'assèchement de la nappe, ça a tiré l'eau vers le point le plus bas de la ville, qui est ici. Et donc, des pollutions qui avaient été générées ici, et ont finalement migré vers le centre de la ville. Ils ont une nappe qui est quand même assez polluée. Voilà, donc écoutez, on ne s'attendait pas en fait à des différences aussi énormes entre ces 4 villes qu'on imaginait relativement semblables, avec des savoirs communs, et donc dont les cycles de l'eau sont devenus donc très différents, alors avec des décalages temporels en termes de gestion de l'eau qui sont énormes, donc entre 2 villes qui n'ont installé leur station d'épuration qu'après les années 2000. Alors que les 2 autres, Paris et Berlin, avaient commencé donc à peu près en même temps, sachant que Paris a généralement un décalage d'une quinzaine d'années avec Berlin, plutôt en retard. Mais de temps en temps, on a été en avance sur certains points, mais très peu. Voilà, et puis donc des différences de gestion entre les villes et leurs banlieues. Je voudrais juste terminer par ce point-là. Donc j'ai pris le point de vue de la rivière, donc je vous ai raconté une histoire, mais... Quand même, on a besoin de remettre un peu d'hommes là-dedans. Et donc, il y a un point que j'aurais pu aussi développer. En tout cas, on essaye de travailler dessus, sur des points singuliers, parce que c'est impossible de travailler sur l'ensemble du linéaire de la rivière comme ça. Et là, voilà, donc, un lieu singulier qui est en amont de Paris, à Vitry, où il y a, bon, c'est l'usine élévatoire des eaux ici, mais sur la rive en face, il y a une grosse usine de production d'énergie qui fonctionne de charbon et qui est assez, assez polluante. Hein. Et juste à côté de l'usine, en face, il y a une prise d'eau pour la ville de Paris. Et puis, c'est un endroit où on se baignait absolument tranquillement. Et il y a, alors que cet endroit était connu, enfin, il y a des analyses. Donc, l'Observatoire de Montsouris a fait des analyses de Vitry depuis la fin du, depuis la fin du 19e siècle. Donc, ici, sur cette photo qui est vers 1910, enfin, c'est carte postale. On sait déjà l'état de la rivière à ce moment-là. Il n'y a pas que nous qui le savions, c'est-à-dire que c'était aussi dit que ce n'était pas une eau de bonne qualité. Mais ça n'empêchait pas les gens de se baigner. Et vous savez, donc il y a un décalage très net entre discours sur la qualité de l'eau, reconstitution que nous pouvons faire de cette qualité de l'eau, et puis finalement usage de la rivière où on a l'impression de temps en temps que c'est quand même assez disconnecté. Par rapport à ces discours, justement, qui montraient que cette eau n'était pas de bonne qualité. Bon, sachant que je dirais que globalement, l'eau de la Seine est quand même de bien meilleure qualité qu'au début du XXe siècle. Sur un certain nombre d'éléments, on peut le dire. Et actuellement, la baignade est interdite. On ne peut toujours pas se baigner dans Paris. Le dernier exemple étant la traversée de Paris à la nage qui devait avoir lieu le 2 septembre et qui a été interdite par la préfecture. Alors pour des raisons, on ne sait pas, c'est la préfecture, donc ils n'ont pas besoin de justifier leur interdiction. Mais ils ont l'association qui avait organisé cette manifestation a dit que c'était pour des raisons, enfin qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'eux avaient fait faire des analyses de l'eau de la rivière et qu'elle était de bonne qualité, donc ils ne comprenaient pas du tout pourquoi on pouvait leur interdire ça. La préfecture, elle, n'a rien dit. Et on peut supposer qu'il y a un conflit d'usage entre ces baigneurs qui utilisent toute la place hein, et puis des bateaux mouches qui rapportent beaucoup d'argent à la ville, enfin qui rapportent beaucoup d'argent à l'économie parisienne. Voilà. Donc il peut y avoir aussi c'est des questions un peu plus larges. Merci. Voilà. Les oui. mouches sont sales et les virus, on ne les mesurait pas par contre avant. Donc ça, on sait qu'il y en a maintenant dans la rivière, mais avant, on ne sait pas combien il y en avait. Bon, alors, les spécialistes disent qu'il y en avait tout autant et qu'il est hors de question de se baigner dans cette Seine qui est pleine de saloperies. Mais bon, chacun son...
Bon, alors les quatre villes, là, c'est quand même vraiment extraordinaire cette comparaison-là. C'est succulent hein, au niveau des résultats.
Oui.
Voilà. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que tous ces quatre villes-là et d'autres ont fait aussi des expositions universelles. Et ça, c'est important parce qu'à la fin du XIXe siècle, les expositions universelles sont des lieux de rassemblement scientifique. On fait des congrès à cette occasion, etc. Et donc, on visite. Et c'est un lieu de mission et à la fois de comparaison.
Oui, et puis d'échange entre les villes, enfin, de savoir, en fait.
Ouais. Et puis, ces quatre villes-là, c'est quand même des capitales industrielles.
Oui, complètement.
Ça, c'est important. Alors, la Tamise à Londres, l'eau est encore plus pourrie qu'à Paris.
Oui, mais...
Il y a de l'eau saumâtre.
Oui, mais au niveau de la comparaison, enfin, on peut faire. Il y a eu des études, d'ailleurs, qui ont été faites sur des études rétrospectives de l'état de la Tamise jusqu'à peu près les années 1850, parce que c'est vraiment un même référentiel technique. C'est la seule, c'est ça qui permet de faire l'homogénéité de l'ensemble de cette période, avec des institutions qui se mettent également en place au moment où il y a des épidémies, comme à Paris, comme à Berlin, comme à Milan.
Il y a le Great Stink, la grande puanteur. Le Great Stink, c'est 1862-63. Ça pue tellement que les députés du Parlement sont obligés de déménager.
Oui, enfin, nous, on a eu l'été de la grande puanteur en 1880 à Paris, qui était un été où il y avait un étiage particulièrement bas. Et on s'est posé la question de savoir si c'était pas les égouts, enfin, si c'était pas. Enfin, en fait, le débit des égouts était supérieur au débit de la Seine, donc c'était pas terrible. Et en fait, bon, ce qui a été accusé, c'était la ceinture de traitement la ceinture tout autour de Paris, les usines de traitement des excrétats parisiens, donc pour former de la poudrette ou des engrais dits naturels, donc qui étaient installés soit à Bondy, soit à Arcueil, soit donc à Haute-Borne, il y avait à Arcueil. Oui, il y avait, enfin, il y avait des. La raison pour laquelle, je l'ai pas dit, mais la raison pour laquelle les rivières ont été couvertes à Bruxelles, et les canaux à Milan, la Panqueux à Berlin et la Bièvre à Paris, c'était parce que les puanteurs étaient trop insupportables et on a décidé de couvrir ces rivières pour éviter ces puanteurs. Hein. Et on les a finalement, à partir du moment où elles sont couvertes, on les oublie. Alors on est en train de les redécouvrir actuellement, puisque c'est de les redécouvrir dans tous les sens du terme, puisque ça fait partie des volontés de renaturation des cours d'eau. Donc on se demande si on ne va pas rouvrir ces rivières et les rendre, donc avoir un joli filet bleu qui coule. Donc la solution pendant ce temps pour la Bièvre, c'est de garder la Bièvre telle qu'elle est, parce que franchement, c'est pas terrible, et de faire couler une fausse rivière dessus, voilà, avec de l'eau qu'on va prélever ailleurs. Quoi.
La Bièvre, c'est un patrimoine industriel.
Ben oui, c'est ça. Donc que faut-il faire? Est-ce qu'il faut garder ce patrimoine dans cet état-là, ce qui permettra d'aller faire quelques, un jour on aura beaucoup de courage d'aller plonger dans ce tuyau et d'aller faire quelques prélèvements de sédiments pour voir dans quel état ils sont. Mais
quand j'ai vu les photos de Paris et de Berlin, savoir que les berges ne sont pas, qu'il y a une route qui sépare,
oui.
C'est un problème certainement de juridique, non, enfin, d'accession aux berges. Parce que non, ça m'a choqué parce que j'ai vu ce même genre de comparaison de photos,
oui,
entre la façon où à Berlin on utilise les rues, enfin où les trottoirs sont habités par les habitants, et où dans les villes en France tout est vide parce que justement les habitants n'ont pas le droit, d'un point de vue juridique, d'occuper les trottoirs. Donc je me pose la question là par rapport, c'est une analogie un peu bizarre que je fais, mais je me pose la question par rapport au fait que là vous mettrez une image de Berlin occupée, les berges occupées. Et ensuite vous avez dit Paris, etc., ou la banlieue parisienne, il y a des routes.
Enfin, oui.
Donc c'est certainement un problème juridique, je veux dire, d'accession, enfin d'accessibilité à l'eau.
La propriété.
Moi je vois ça un peu autrement, hein,
oui.
Parce que jusqu'au 18e siècle, il y a une vie que partagent les Parisiens et la rivière et le fleuve. Et c'est au fin 18e siècle, hein, au moment où Bacouche fait la coupure, après 1750, dans son travail sur la Seine et Paris, que ça change. On va d'abord, il y a une volonté d'urbaniser complètement les berges de la Seine, de faire quelque chose de beau. Et on retrouve Napoléon là encore derrière.
Oui,
et on va couper, on a cette verticalité qui tue les poissons, etc., et qui va couper les Parisiens du fleuve. Alors là, bon, voilà ce que je pense, après avoir travaillé sur les rapports de Paris, des Parisiens et de l'eau avant cette époque-là.
Alors, il peut y avoir plein de raisons. En fait, la Spree coule tellement lentement et c'est un terrain tellement plat, ce que je n'ai pas vraiment signalé, qu'il n'y a pas de... De temps en temps, on ne sait pas dans quel sens elle coule, la Spree. Hein, donc, elle peut... C'est ce que disent les Berlinois. Moi, j'ai toujours remarqué qu'elle coulait dans le même sens, mais les Berlinois m'ont dit que de temps en temps, on ne savait pas. Et à Paris, il y a aussi la particularité, ou à Paris ou dans la banlieue parisienne, d'avoir des chemins de halage, en fait, qui sont aussi les lieux sur lesquels les routes ont été construites. Mais ce n'est pas complètement vrai, parce que l'endroit là, que je vous ai montré, la baignade, hein, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est une descente en sable qui va jusqu'à la rivière. Et actuellement, c'est une route avec un mur qui est le mur de la. Qui plonge vers. Enfin, qui est la berge qui plonge vers la Seine. C'est pas le chemin de halage à cet endroit-là.
J'ai une question à propos de Berlin. J'étais surpris par le fait qu'il y a dans le centre-ville, il y a des tuyauteries aériennes. Vous savez pourquoi
Ils m'ont expliqué pourquoi.
Oui, moi j'ai pas eu l'explication.
Oui, mais quand ils font des travaux, ils font tout passer en aérien.
Oui.
Est-ce que c'est l'instabilité de leur sol et ils ont des nappes qui sont très proches en fait, hein. comme Milan, ils ont des nappes qui sont extrêmement proches de. Mais enfin, ils peuvent, ça n'empêche pas de. En grande partie.
En partie, mais il y a une partie souterraine aussi, hein. Il y a les deux. Ah, peut-être, oui. Oui, puis il y a le train aussi en circuit. Mais là, c'est très très surprenant, hein. Canalisations qui se baladent dans.
Qui se baladent en hauteur, oui, ouais. Tout à fait. Je sais qu'ils m'ont expliqué, mais je ne sais plus pourquoi. Oui.
Ça date des années 90, monsieur Leveau.
Je ne suis pas sûr.
Tu Je peux pas vous répondre.
Ah, c'était pas comme ça.
Alors, évidemment, l'histoire politique de Berlin a eu un rôle aussi dans cette gestion de l'eau, parce que la séparation de Berlin-Est et Berlin-Ouest, alors il se trouve que les champs d'épandage étaient tous à Berlin-Est, hein, dans les territoires de Berlin-Est. Non, c'était comme ça. C'est donc, c'était la séparation, enfin, comme par hasard. Je ne peux pas dire qu'ils ont dévié la frontière pour passer, pour laisser les champs d'épandage à Berlin-Est. Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, ça a nécessité. Alors bon, voilà. Donc, malgré la coupure entre les deux villes ont été obligées de s'entendre, hein, notamment pour la gestion de l'eau et pour la gestion des déchets. Ça fait partie des choses intéressantes. Et ça a obligé aussi Berlin-Ouest à construire ses propres stations d'épuration, ce qui explique qu'il y en a partout autour de Berlin, en fait. Et donc, il y a une bien meilleure gestion du cycle de l'eau à Berlin.
Mais les villes ne prennent pas exemple les unes sur les autres. C'est ce qu'on se pose quand on voit les comparaisons. Enfin,
mais elles n'arrêtent pas de se citer. C'est-à-dire qu'il y a des missions de Paris à Berlin pour savoir comment ça fonctionne à Berlin, de Berlin à Londres, de Londres à Paris, de Milan à Paris, de Bruxelles. Oui, ils se parlent énormément. Et au final, on se retrouve avec des cycles qui n'ont rien à voir. Donc, alors que les problèmes identifiés sont les mêmes. Donc, ce qui remonte, on était parti sur la vision de l'eau, la révision de la qualité de l'eau vue du point de vue de la rivière, mais en fait, on est reprojeté immédiatement dans l'humain et dans sa gestion de la rivière, dont on voit qu'elle a finalement, enfin, ça met en valeur d'ailleurs l'impact du gestionnaire ou du politique. Beaucoup plus que si on avait simplement regardé une seule de ces villes où on aurait finalement raconté une histoire. Des histoires, on aurait pu en raconter, mais où on n'aurait pas forcément compris l'importance, l'impact de leurs décisions sur la rivière.
Parce qu'on a parlé de l'impact des agences de l'eau hier lors de notre table ronde. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit qu'en fait, ça ne servait pas. Enfin, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est une manière de polisser un petit peu
ça a changé, je pense, quand même, le regard de la société sur les rivières. Oui. Enfin, en tout cas, le regard de la société sur les rivières a changé. Les agences de l'eau ont eu un rôle, elles ont voulu jouer un rôle. Enfin, ça fait partie de leur mission. Donc, alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'elles ont eu un rôle que le regard a changé? Moi, je dirais que oui, quand même.
On a eu un commentaire disant que les agences fuyaient. C'était un commentaire ironique.
Les agences, concrètement, d'un point de vue historique sur la qualité de l'eau, ce sont les agences qui, en 1971, ont réalisé le premier état général de la qualité de l'eau sur l'ensemble des bassins, sur l'ensemble des rivières du bassin de la Seine. C'est le seul bassin qui a eu une première campagne totale en 1971, qui a été renouvelée en 1976. Et moi, ce sont des documents que j'ai évidemment en permanence à côté de moi, puisque ce sont des états des lieux qui permettent donc de faire un... De comprendre quelle peut être l'évolution de la qualité. Donc, ils sont là, de ce point de vue-là, ils ont eu un rôle. Cette vision globale de la qualité n'avait jamais été réalisée avant.
Bon, je crois qu'il va falloir conclure. Je vous remercier d'abord l'Espace Mendès France et Anne. Pour cette invitation et ce plaisir partagé. Enfin, moi, j'ai partagé. Oui. Je ne sais pas si c'est... Et puis, c'était rigolo. Et puis, c'était... On a bien bu. On a bien bu de l'eau. Enfin, on a avalé, en tout cas. On a... Bon. Et puis, c'est bien. Donc, j'espère qu'il y aura une autre fois. Je ne sais pas où.
Ça serait bien de continuer, en fait.
Voilà.
De points, de temps en temps, sur vos recherches. Ça peut même pas...
Oui, tout à fait. Oui. Voilà, bon, je conclue. C'était très, très, très positif.
Les thématiques pour le prochain congrès d'histoire des sciences et des techniques.
Ah oui, c'est ici?
Non, ça sera à Lyon.
Oui, pourquoi pas.
Les thématiques sur l'eau.
Oui, ce serait pas mal, ça.
On va proposer aux amis de...
À Lyon, ça s'impose.
Oui, c'est ça, oui. Encore que le gamet, j'aime pas trop. Mais...
sur la note d'André. En tout cas, non, vraiment, merci à vous. C'était un plaisir de revoir tous nos amis. Ils sont toujours fidèles. Et puis, les invités que nous ne connaissions pas. Il y a vraiment des recherches intéressantes aussi. Enfin, on a passé vraiment une très bonne journée. Je remercie André, puis je vous remercie tous. On n'était pas très nombreux, mais c'était de qualité. Voilà. Merci beaucoup. Bon retour à tous. Et puis, la journée, donc, sera sur le site internet de l'Espace Mendès France pour permettre aux gens d'écouter vos interventions.
Merci, bonsoir.